Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview.
Donald Trump a annoncé lors du sommet de l'OTAN que les États-Unis vont autoriser l'Ukraine à fabriquer des missiles Patriot. Qu'est-ce que ça change dans la guerre face à la Russie? On est avec Ulrich Bouna. Bonjour. Analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est. Vous êtes chercheur associé chez Euro Creative et Open Diplomatie. Cette histoire des missiles Patriot, alors l'objectif c'est d'intercepter des missiles balistiques russes. C'est un game changer sur le papier. Quand on regarde comment ça va être mis en place, à quel moment ils vont vraiment être sur le terrain, là, ça se complique, hein.
Ah, ça va être beaucoup plus compliqué pour plusieurs raisons. Déjà parce que Donald Trump a fait une annonce politique, mais que concrètement, le contrat, il n'est pas signé. Il y a actuellement, alors politiquement, c'est important, il n'y a que deux pays qui sont capables de produire des, qui ont l'autorisation, pardon, de produire des missiles en dehors des États-Unis, c'est l'Allemagne et le Japon. Donc, le fait que l'Ukraine le devienne, c'est extrêmement important politiquement, ça montre un soutien politique. En revanche, effectivement, les entreprises n'ont même pas été consultées, Raytheon et Lockheed Martin. Et d'autre part, la question va être de quand est-ce qu'on va construire cette usine et où on va la construire. Il est évident que si elle était construite en Ukraine, il y aurait de vrais risques que la Russie la bombarde très fortement.
Lisa. L'Ukraine a acquis ces derniers mois une expertise remarquable sur les drones. Est-ce qu'elle pourrait acquérir une expertise similaire sur les Patriotes ou alors la situation est différente?
Non, en fait, enfin, ils ont déjà acquis une expérience sur les Patriotes. Ils les utilisent d'une manière différente que celle des Américains. Ils sont beaucoup plus parcimonieux dans la façon dont ils l'utilisent, beaucoup plus efficaces.
Parce qu'ils en ont moins aussi.
Parce qu'ils en ont moins, effectivement. Donc, nécessité fait loi. Mais par contre, oui, effectivement, et ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au-delà de ce projet de Patriotes, il y a un autre projet qui s'appelle Freya, une espèce de coalition de pays volontaires qui seraient prêts à investir dans de la défense anti-aérienne fabriquée par les Ukrainiens. Donc oui, les Ukrainiens développent des capacités dans un certain nombre de domaines, notamment le balistique et l'anti-balistique, encore une fois parce que les Russes les bombardent quasiment tous les jours.
Quand vous regardez le sommet de l'OTAN, vous dites bon sommet pour Volodymyr Zelensky ?
Oui, globalement oui. En fait, surtout quand on regarde la trajectoire, on se rappelle, voilà, je ne vais pas revenir sur le
28 février. Sur le bureau ovale, difficile.
Voilà, vous n'avez pas les cartes, ouais. Vous avez dit merci, tout ça. Là, on a quand même un communiqué officiel de l'OTAN qui dit que l'Ukraine participe à la sécurité de l'OTAN. Donc, on a quand même un changement de pied extrêmement important. On a cette promesse de Donald Trump de fournir, de cette licence. On a visiblement aussi une promesse de fourniture de missiles anti-aériens PAC-3, donc Patriot PAC-3. Par les Américains. Donc oui, globalement, c'est relativement positif. Il y a eu aussi 70 milliards de promis pour 2027 pour l'achat militaire ukrainien. Donc oui, globalement positif.
On raconte régulièrement sur cette antenne, notamment avec Analisa, à quel point l'Ukraine aujourd'hui bombarde des sites en Russie, des sites notamment énergétiques. Mais il faut dire que l'inverse est également vrai. Aujourd'hui, quand vous regardez où on en est de la guerre, vous dites c'est l'Ukraine qui est en train de basculer vers la victoire ou c'est un peu une vision européenne de dire ça?
Je dirais qu'il y a différentes focales. Quand vous regardez sur ce qui se passe véritablement sur le terrain, c'est la Russie qui progresse très très lentement, mais qui progresse notamment dans la ville de Konstantinivka. Les Russes y sont à moitié. Et donc cette ville va probablement tomber. Les ruines de cette ville vont tomber dans l'escarcelle des Russes d'ici quelques mois. En revanche, quand vous dézoomez un peu la focale, effectivement, les Ukrainiens ont réussi cet exploit d'aller porter la guerre jusqu'au cœur de la Russie et donc de briser cette espèce de bulle qu'avait construite Vladimir Poutine autour de la société russe qui faisait qu'il y avait la guerre mais que cette guerre n'existait pas pour les Russes, ça n'existe
désormais
pas.
Désormais, elle existe pour les Russes.
Oui, désormais, elle existe déjà parce qu'ils voient leur raffinerie détruite, parce qu'un tiers de la population subit des restrictions dans la distribution d'essence, donc ça, c'est une réalité pour les Russes. La vraie question, c'est quel est l'impact politique que ça a sur Vladimir Poutine. Pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'il a envie de se radicaliser plutôt que de rentrer dans les négociations.
Analisa.
Alors, vous avez parlé des frappes sur les sites énergétiques, ça se concentre en ce moment en Crimée. Qu'est-ce qui se passe en Crimée? Est-ce que c'est là que se joue un peu le moment de bascule de cette guerre?
Honnêtement, je ne pense pas. Alors, ce qui se passe en Crimée, c'est très important. La Crimée a toujours été dépendante de ses approvisionnements extérieurs. Les Ukrainiens ont frappé, grosso modo, les trois points d'accès et ils continuent à le faire. Ça a plusieurs impacts, déjà militairement, tout ce qui pouvait partir, notamment en partie les avions de chasse et les navires de guerre, sont partis pour éviter d'être détruits sur place. Il y a des pénuries d'essence, il y a des pénuries d'eau, il y a des pénuries d'électricité. Donc la bulle économique, encore une fois, de la Crimée, qui reposait beaucoup sur le tourisme, est en train là aussi de s'effondrer. On parle de 50% au minimum d'annulation de réservation dans les hôtels pour la saison estivale. En revanche, la Crimée étant de facto un peu isolée du reste de la Russie, pour l'instant, j'ai pas le sentiment que ça impacte véritablement le reste de la Russie. Les frappes sur les raffineries au cœur de la Russie ont plus d'impact que les frappes sur la Crimée.
Bon, et donc, qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui de l'avenir de l'Ukraine ? On voit aujourd'hui quand même que sur les questions militaires, on exporte des armes ukrainiennes désormais dans le monde entier. L'Ukraine a changé de place ?
Oui, complètement. Elle est passée d'un consommateur de sécurité qui récupère à peu près tout ce qu'elle peut dans les pays européens à un fournisseur de sécurité pour l'Europe, pour les pays du Moyen-Orient, avec notamment ces drones qui commencent à être exportés. On voit aussi se multiplier les partenariats industriels entre l'Ukraine et les pays occidentaux. Donc, on voit bien que l'Ukraine, petit à petit, rentre en quelque sorte dans l'espace économique militaire de l'Union européenne. Donc ça, c'est fondamental. Ça va sans doute changer les choses dans la façon dont va être perçue l'Ukraine. Ça va aussi permettre à l'Ukraine de survivre aussi économiquement, c'est fondamental. Après, encore une fois, Vladimir Poutine, on a vraiment le sentiment qu'il a envie d'avoir ce Donbass, quoi qu'il arrive, ces 20% qui lui échappent. Et donc, pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'il est prêt à tout, quitte à subir des difficultés économiques, politiques, sociales en interne, plutôt que de lâcher les choses. Et ça, c'est un problème pour les Ukrainiens, parce que le calcul, ce qui était sans doute fait à Kiev, c'était de se dire, on va bombarder en Russie, forcer Vladimir Poutine à prendre en compte un mécontentement populaire qui monte pour rentrer en négociation avant l'hiver, avant des nouvelles frappes probablement dévastatrices sur le réseau
énergétique. Et la négociation
Pour l'instant, ça semble quand même extrêmement compliqué. Au contraire, Vladimir Poutine est plutôt en train de dire « je veux le Donbass », c'est « j'aurai le Donbass, quoi qu'il arrive », plutôt que de dire « ok, on arrête les frais et on commence à discuter ».
Merci beaucoup, Léry Bounal, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.